France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une nouvelle agression au couteau devant un établissement scolaire. Un collégien de 14 ans a tué une surveillante ce matin à Nogent, département de Haute-Marne. Cela s'est passé au moment d'une opération de fouille de sac. Emmanuel Macron dénonce un déferlement de violence insensé. Les faits et les premières réactions dans un instant. Alors qu'en Autriche, une fusillade a eu lieu ce matin dans une école à Graz, dans l'est du pays. Il y a au moins 10 morts. Un élève aurait ouvert le feu les dernières. Dernières informations dans un instant. À suivre encore l'expulsion d'Israël des militants du bateau pour Gaza. 4 sont déjà dans l'avion, dont la militante Greta Thunberg. 8 autres vont suivre. Nous serons à Jérusalem. Mayotte, 6 mois après le cyclone. Série de reportages aujourd'hui sur Inter. Grâce à vous. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Nous allons parler ensemble reconstruction.
Ouais, les dégâts se voient toujours, hélas, à Mayotte. La végétation, par exemple, est encore meurtrie. Carcasses de bateaux qui jonchent les ports et les habitations sont pleines de pansements.
À tout de suite. Nous parlons aussi dans ce 13-14 du débat sur les économies dans le budget de l'État. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Les crédits d'impôt sur les services à la personne sont sur la sellette.
Oui, avec cette question, tous les services à domicile, de la garde d'enfants au petit bricolage, doivent-ils bénéficier du même niveau de crédit d'impôt, de soutien public ? Question reposée aujourd'hui par le gouvernement.
Vos explications dans quelques instants. Nous prendrons des nouvelles de ces centaines de spectateurs qui attendent la star américaine Billie Eilish à Paris, concert ce soir et demain. Et puis nous prendrons la direction de cette commune de Gironde où 3 commerces viennent de rouvrir.
C'est chouette parce que moi quand je suis arrivée sur Borèche à 25 ans, bah, y avait rien. Là maintenant, vous voulez aller vous faire épiler les patounes ou un petit massage, voilà. C'est l'occasion de venir sur Borèche et acheter des légumes et vous faire faire un massage et manger au resto.
Reportage dans une vingtaine de minutes. À partir de 13h30, des personnalités prennent la parole dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elles racontent leur quotidien d'aidant. C'est le cas du chanteur Alain Chamfort qui sera avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Ses habitants qui donnent du temps pour embellir leur commune. Présentation de Cyril Petit. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Christine Murillo demande Aline à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Trop d'armes blanches circulent chez les jeunes. C'est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours. C'était le constat de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, début février. Depuis, le gouvernement a fait renforcer les contrôles des sacs devant les établissements scolaires. Et c'est à l'occasion de l'une de ces fouilles qu'un collégien de Nogent, en Haute-Marne, a poignardé l'une de ses surveillantes ce matin. Elle est morte. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Service police-justice de France Inter. Que s'est-il passé précisément ce matin devant ce collège ?
Alors, il y avait effectivement cette opération de contrôle des sacs de classe où des gendarmes étaient présents pour superviser l'opération. Un élève a sorti un couteau et selon les premiers témoignages recueillis sur place, il aurait menacé la surveillante qui s'est enfuie en courant et il l'aurait rattrapée au niveau des grilles de l'établissement avant de lui porter un ou plusieurs coups de couteau rapidement pris en charge. La jeune femme, 31 ans, qui effectuait sa première année scolaire au sein de cet établissement de Nogent, a donc succombé à ses blessures. L'adolescent est âgé de 14 ans, précise le procureur de Chaumont. Il a été immédiatement maîtrisé par les gendarmes qui étaient donc présents. L'un d'eux a d'ailleurs été légèrement blessé dans l'opération. Le collégien est depuis bien évidemment en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Elle est confiée au service de recherche des gendarmeries de Chaumont et de Reims. Il n'y a pour l'instant aucune information communiquée sur le profil de l'adolescent à l'origine de ce meurtre, si ce n'est qu'il était inconnu des services de police.
Merci Jean-Philippe Degnaud. Il s'agit du collège Françoise Dolto de cette commune de Nogent, département de Haute-Marne. Mais il y a eu de nombreux précédents ces derniers mois. Des agressions au couteau devant ou à l'intérieur d'établissements scolaires. Une lycéenne a été tuée à Nantes par l'un de ses camarades. C'était fin avril. Alors depuis, le Premier ministre François Bayrou avait demandé une intensification de ces opérations de contrôle. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Vous avez les chiffres des contrôles qui ont été réalisés ces derniers mois.
Oui, plus de 6000 opérations de contrôle depuis fin mars dans toute la France. 186
couteaux ont été saisis et 32 gardes à vue ont eu lieu. Dans l'académie de Reims en particulier, les opérations se déroulaient en ce moment à des dates différentes dans les collèges et lycées. Alors comment ça se passe? Les personnels demandent aux élèves d'ouvrir leurs sacs, parce que je vous rappelle que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas le droit de fouiller les sacs. Ils ne peuvent procéder qu'à un contrôle visuel. Et ces opérations ponctuelles se déroulent en présence des forces de l'ordre. Vincent Absou, représentant syndical des chefs d'établissement de l'Académie de Reims, a lui-même mené cette opération dans son lycée.
Moi, je l'ai faite il y a quelques semaines, effectivement. J'avais une place de date. C'était la semaine de l'Ascension. Oui, de l'Ascension. Donc, c'est tout à fait récent. J'ai pris contact avec les forces de l'ordre qui ont répondu présent, bien entendu, qui étaient là. Et avec les assistants d'éducation, les CPE et l'équipe de direction, on a procédé à l'ouverture de tous les sacs en demandant aux élèves de bien vouloir nous en montrer le contenu. Les forces de l'ordre ne demandaient pas aux élèves d'ouvrir le sac. Les forces de l'ordre étaient là en observateur. Dans le cadre de mon établissement, l'ouverture des sacs s'est déroulée juste après la grille, de façon à ne pas bloquer le parvis. Et donc les forces de l'ordre étaient là à regarder ce qui se passait.
Le dispositif met donc en première ligne les personnels et en particulier les surveillants, les assistants d'éducation, comme on les appelle.
Merci Sonia Princé de nous avoir détaillé comment se déroulent précisément ces opérations de fouilles de sacs qui se sont donc multipliées devant les établissements scolaires ces derniers mois. Des syndicats s'étaient opposés dès le début de ces annonces à ces opérations. Je propose d'écouter la réaction d'Isabelle Vuillet, c'est la coordinatrice du syndicat CGT Éducaction.
Pour nous, c'est effectivement un drame effroyable. Donc on est bien sûr sous le coup de l'émotion, mais au-delà de ça, sur cette mesure de fouille de sac, nous, on n'était pas du tout favorables. Et d'autant plus que ça mettait les AED en première ligne. Or, ils ne sont pas formés et ce n'est pas leur mission. Nous, notre rôle, je le redis, mais c'est l'éducation. Donc ces mesures de sécurité, c'est pas notre métier, on ne peut pas répondre à cela, c'est pas possible. Rien ne va dans cette histoire, en fait. Rien ne va dans cette histoire.
Réaction recueillie par Maxime Debs, AED, assistant d'éducation. La réaction du chef de l'État ce matin, Emmanuel Macron, déplore un déferlement de violence insensée. Le Premier ministre François Bayrou également a réagi il y a quelques minutes en demandant, face à la menace des armes blanches chez nos enfants devenus critiques face à ce fléau répandu partout, un ennemi public, dénonce le Premier ministre, et puis réaction également de la chef de file du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui dénonce la banalisation de l'ultra-violence encouragée par l'apathie des pouvoirs publics. Fin de citation. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a ce matin apporté son soutien aux collègues de cette surveillante qui a donc été tuée par cet élève ce matin, Elisabeth Borne, qui se rend sur place en Haute-Marne. En Autriche, c'est là aussi un établissement scolaire qui a été pris pour cible ce matin. Dans la ville de Graz, nous sommes dans l'est du pays. Le dernier bilan fait état de 10 morts, selon la maire de cette commune, dont l'auteur de l'attaque. Bonjour Isorias.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en direct de Vienne. Auteur de l'attaque qui serait un élève de cet établissement.
Oui, des coups de feu ont été entendus ce matin dans une école du nord de Graz. C'est la deuxième ville d'Autriche, située dans le sud-est du pays. Et une intervention policière d'envergure a été déclenchée à 10 heures. Selon la police locale, en effet, l'auteur présumé de l'attaque serait un élève de cet établissement. La maire de Graz, Elke Karl, parle d'une terrible tragédie et confirme que 10 personnes sont décédées, dont l'auteur présumé et au moins 7 élèves et un adulte. Plusieurs autres personnes seraient grièvement blessées, dont des élèves et des enseignants, selon la télévision publique autrichienne. On n'en sait pas plus à ce stade sur les motivations de l'auteur. Des unités spéciales ont été mobilisées et la zone où se trouve l'établissement est actuellement bouclée, les rues alentours surveillées. La situation est stable selon la police qui demande aux habitants d'éviter ce quartier. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation sont attendus sur place.
Merci Isorias pour ces informations en direct de Vienne, en Autriche, en France, département de l'Aisne. Nous sommes dans la ville de Laon. Hier soir, deux pompiers volontaires ont été ensevelis sous les décombres. Ils intervenaient sur un incendie dans un immeuble du centre-ville de cette commune. Les recherches pour les retrouver se poursuivent. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu sur place en début d'après-midi. Les quartiers nord de la bande de Gaza appelés à évacuer ce matin, demande de l'armée israélienne qui annonce une riposte après avoir, dit-elle, intercepté un projectile tiré depuis le territoire palestinien. La population palestinienne, elle est affamée, aucune aide alimentaire n'entre en raison du blocus israélien. Une situation dénoncée par les 12 militants du navire Madeleine a résonné hier par Israël, et parmi ces militants, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan ou encore la défenseure de la cause climatique Greta Thunberg, qui a été expulsée ce matin. Israël a diffusé des images d'elle embarquée dans un avion avec trois autres personnes, dont deux Français. Mais huit de ces militants ont refusé de partir, dont quatre Français. Ils sont donc toujours sur place. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Que vont devenir ceux de ces militants qui ne sont pas encore partis ?
Eh bien, ils sont actuellement incarcérés dans des cellules de la prison de Givon. C'est au centre d'Israël. Parmi eux, un journaliste travaillant pour le Media Blast. Et donc, vous l'avez dit, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Ils sont en garde à vue. Ils doivent être présentés à un juge a priori dans l'après-midi. Ce juge devrait, sans surprise, émettre un ordre d'expulsion. Ce n'est pas un procès. Aucune charge n'est retenue contre eux. Ils sont considérés et jugés comme des migrants illégaux qui auraient traversé une frontière sans visa. Les Français sont accompagnés depuis leur entrée sur le territoire de l'État hébreu par des avocats de l'Association israélienne de défense des droits de l'homme, Adala. Souad Bichara est docteur en droit.
They will be eventually deported within, I would assume, 48 hours.
Je pense qu'ils seront expulsés dans les 48 heures. Les Israéliens veulent expulser tout le monde le plus vite possible. Ils n'ont pas d'intérêt à les garder. Le cadre juridique dans lequel agit l'État hébreu, c'est l'immigration illégale. Factuellement et selon la loi, ce n'est pas vrai. Ils n'avaient pas l'intention d'entrer illégalement en Israël. Ils n'entrent pas dans la même catégorie que ceux qui violent le territoire de l'État hébreu. Ce n'est pas le cas.
Adala précise que Rima Hassan et les trois autres détenus français ont refusé ce matin d'être expulsés pour ne pas reconnaître leurs responsabilités et donc pour ne pas délégitimer leur combat.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant d'Inter à Jérusalem. Alors face au bombardement quotidien de civils à Gaza, le débat sur les armes livrées à Israël monte en Europe. Au Royaume-Uni, plus de 300 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont écrit à leur ministre pour lui faire part de leur inquiétude sur les ventes d'armes de leur pays à Israël. En France, la semaine dernière, les dockers de Fos-sur-Mer ont bloqué des pièces détachées fabriquées en France et destinées à une entreprise israélienne. Et ce matin, un collectif de 9 associations ainsi que le parti La France Insoumise ont interpellé à l'Assemblée nationale le Premier ministre François Bayrou. Sur place, Laurence Perron.
L'enquête menée par un collectif de 9 associations de gauche révèle que depuis octobre 2023, la France continue de livrer des armes létales à Israël, 15 millions d'articles identifiés, après un envoi de 15 milliards de pièces en novembre 2023. David Adler, pour Progressive International, a tracé ces envois au départ des ports et aéroports français.
La France et en particulier le gouvernement d'Emmanuel Macron se sont fait les champions de la cause palestinienne. Mais en même temps, ce gouvernement est complice de la mort d'enfants avec des armes qui proviennent de ces ports et de ces aéroports. Et nous n'avons pu révéler qu'une infime part de ces ventes.
La députée LFI Sophia Chikirou interpellera cet après-midi le Premier ministre lors des questions au gouvernement.
Le gouvernement français a menti sur la qualité des armes. Or, il y a des pièces dans ce rapport qui montrent que ça participe à l'attaque. Des lance-flammes, des fusils mitrailleurs, des grenades.
Le député Bastien Lachaud, spécialiste défense de LFI, réclame l'information du Parlement et l'arrêt de ces livraisons d'armes.
Il est interdit de vendre des armes à un pays qui ne serait que suspect de commettre des crimes de guerre, ce qui est le cas d'Israël, vu que la Cour de justice internationale a émis un avertissement sur une suspicion de commission de génocide.
Le gouvernement français a toujours expliqué que les armes livrées servaient à la défense d'Israël et n'étaient pas utilisées contre les populations.
Laurence Perron à l'Assemblée pour Inter. Ce matin, le président de l'autorité palestinienne, qui est installée non pas à Gaza mais en Cisjordanie, Mahmoud Abbas, prend des engagements dans un courrier adressé à Emmanuel Macron. Il se dit favorable à une démilitarisation du Hamas. Il condamne également les attentats du 7 octobre. Tout cela à une semaine d'une conférence internationale à New York où la France pourrait reconnaître un État palestinien. Aux États-Unis, le bras de fer se durcit encore entre Donald Trump et le gouverneur de l'État de Californie. Et ce bras de fer se cristallise autour de quelques rues dans le centre-ville de Los Angeles, là où se concentrent les manifestants pro-migrants. Ils dénoncent les expulsions et les arrestations musclées. La nuit dernière, le président américain a demandé à des militaires des Marines de se déployer dans la ville après ceux de la garde nationale. Tout cela pour rétablir l'ordre. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Ce que dénonce donc le gouverneur démocrate de Californie. Qui est ce Gavin Newsom ?
Alors, vous savez, il faut se méfier des pronostics qui donnent présidentiable 3 ans avant une élection à un gouverneur américain, car souvent l'engouement retombe aussi vite qu'il est né. Mais c'est vrai que là, eh bien écoutez, tous les ingrédients sont réunis pour donner à Gavin Newsom son petit moment de popularité. Il est gouverneur du plus important État des États-Unis, il est démocrate, mais il sait aussi s'adresser aux républicains. Il a un look impeccable avec des chemises blanches, des cheveux poivre et sel et puis un sourire hollywoodien. Et il a du répondant lorsqu'il demande à Donald Trump eh bien, de grandir un peu et d'arrêter de faire n'importe quoi.
J'ai dit au président, finissons-en, arrêtez-moi, passez à autre chose. Si vous avez besoin d'un scalp, faites-le avec moi. Et arrêtez de vous en prendre à ces jeunes. Les gens ont peur de marcher dans la rue. Il y a des incidents, je n'y croyais pas, mais j'ai vu des vidéos. Ils font des contrôles d'identité des gens bien, qui travaillent dur, des gens honnêtes. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des voyous.
Le gouverneur Gavin Newsom, qui trouve, grâce au président Trump, eh bien, l'occasion de se faire connaître dans tout le pays, car après 6 ans à la tête de l'État de Californie, où il a mené une politique de gauche en défendant par exemple le droit à l'avortement, eh bien il était justement à la recherche du tremplin qui lui permettrait de rayonner au-delà de ses frontières.
Nathanaël Charbonnier, refonder Mayotte, c'est l'objectif du gouvernement. 6 mois après le passage du cyclone Chido, le projet de loi programme entame aujourd'hui son examen en commission à l'Assemblée avec 2 volets. Il y a un volet migratoire et un volet sécuritaire. Béatrice Duguay, on vous retrouve. Vous rentrez de l'archipel de Mayotte, nous écoutons depuis ce matin vos reportages. On va parler ensemble maintenant du bâti. On se souvient de ces images, de ces bidonvilles à terre et puis de ces bâtiments en dur endommagés. Où est-ce qu'on en est sur place ? La reconstruction n'en est qu'à ses débuts.
Exactement, les bâches sur les bâtiments, voilà ce qu'elles restent omniprésentes hein, dans ce paysage mahorais. Voyez l'école de danse de Pamandzi, par exemple, où Mohamed Ali Feini est employé.
Le toit, il est carrément effondré et tout. Bah, c'est pas encore réparé, ça c'est juste provisoire.
À quelques centaines de mètres. Voilà, on arrive sur le toit. La mosquée n'a plus de charpente. Mohamadi, ancien enseignant et fidèle lui-même, joue les chefs de chantier.
Il y avait 2 parties là. On a jugé utile d'enlever ce qui était touché pour faire une toiture béton.
Et si les travaux sont en cours, c'est grâce à des bénévoles et des matériaux donnés par les fidèles. Puisqu'à Mayotte, il manque des tôles, du bois de construction, de tout en fait. Des entreprises structurées aussi, beaucoup ont elles-mêmes été sinistrées. Et pour la CIM, la société immobilière de Mayotte, principal bailleur social, eh bien, réparer les logements abîmés tient de la gageure parce que l'inflation s'invite également dans l'équation, précise Ahmed Ali Mondroa, le directeur général de la CIM.
Ici, les coûts de construction n'arrêtent pas. Chido étant passé par là, il y a des prix qui ne sont plus contrôlés, notamment la tôle, hein, qui est une des matières où on a le plus besoin dans ce contexte-là. On essaie de trouver des solutions. Ce n'est pas simple, mais en tout cas, on a commencé à engager les travaux. Les choses vont plutôt bien. Dans le contexte que vous comprenez, c'est compliqué, mais ça avance sérieusement.
Voilà, près de la moitié des 3000 logements de la CIM sont sinistrés, 900 légèrement, les travaux, vous l'entendez, y commencent, 300 plus sérieusement et 300 autres sont carrément inhabitables.
Merci Béatrice Duguay, vos reportages dont votre zoom de ce matin à retrouver sur l'application Radio France. Nous parlions à l'instant de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a annoncé ce matin qu'il y aurait une session extraordinaire du Parlement. Ce sera du 1er au 11 juillet. La proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public sera notamment examinée à cette occasion.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un feuilleton, donc chaque jour son épisode. Où trouver 40 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit ? 2 acteurs principaux dans ce feuilleton, Éric Lombard, le ministre de l'économie, et Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics. Je vous rappelle l'épisode d'hier si vous l'avez manqué, c'était « Nous voulons diminuer le nombre de fonctionnaires ». Celui d'aujourd'hui concerne les crédits d'impôt pour les services à la personne. Faut-il en supprimer ? Le gouvernement y pense sérieusement, Claire Chaudière, avec une ligne rouge. Pas touche à l'avantage fiscal pour la garde d'enfants et pour l'accompagnement des personnes âgées.
Oui, il y a service à la personne et service à la personne. D'un côté, la garde d'enfants en bas âge, l'aide aux personnes dépendantes, soins, repas, accompagnement dans les déplacements. Et de l'autre, eh bien, certains coachs sportifs mentionnent l'entourage de la ministre du budget ou les activités de jardinage, par exemple. Méritent-elles le même coup de pouce ? Dans les couloirs de Bercy, la question est posée depuis déjà plusieurs semaines. Il faut dire que cette liste des métiers concernés est vaste. On y trouve notamment le petit bricolage, le soutien scolaire, les travaux ménagers ou encore des services de télésurveillance. Quasiment 9 milliards d'euros d'exonération au total en 2022, si l'on inclut crédit d'impôt et TVA réduite, indiquait l'année dernière la Cour des comptes, qui identifiait plusieurs soucis. Un bond de 40% de ses dépenses publiques en 10 ans sans augmentation du taux d'activité. Des aides qui bénéficient principalement à des ménages employeurs parmi les 20% les plus aisés et des entreprises intermédiaires, des plateformes d'intermédiation installées sur ce marché et pas toujours toutes très transparentes. Alors faut-il revoir complètement la liste de ces activités au risque de favoriser peut-être le travail au noir ou plutôt revoir le niveau de soutien public sur certaines de ces activités? Le gouvernement réfléchit à toutes ces options.
Merci Claire Chaudière. Bonjour Brice Alzon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire des économies dans ces crédits d'impôt? 9 milliards d'euros d'exonération, nous rappelle à l'instant Claire Chaudière.
Alors, nous, effectivement, nous avons bien suivi les annonces d'Amélie de Montchalin et on trouve que le gouvernement, encore une fois, mais ce n'est pas la première fois, prend cette histoire à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services de la vie donc quotidienne, en service à la personne, dont vous parliez, le jardinage, le ménage et d'autres métiers comme de la vie quotidienne pour les familles, aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont bénéficiaires pour l'État. C'est-à-dire que pour, effectivement, que comme vous le disiez à l'instant, un euro de crédit investi par l'État en crédit d'impôt, ça ramène, en vrai, dans les caisses de l'État, 1,50€ grâce à ce que nos entreprises payent au quotidien sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés, et en cotisation URSSAF, etc. Voilà. Nous, aujourd'hui, les services à la personne, c'est 1 million, donc 200 000 emplois. Et on sait que notre principal concurrent, c'est le travail non déclaré. Et grâce au crédit d'impôt, grâce à l'avance immédiate du crédit d'impôt, on a réussi justement à faire baisser ce travail non déclaré. Il faut pas oublier que sur nos métiers de ménage et de jardinage dans la vie quotidienne, la plupart de nos salariés recrutés sont donc des salariés qui étaient en rupture par rapport au monde du travail, qui étaient chez France Travail et qui aujourd'hui ne coûtent plus à l'État.
Mais est-ce que les Français les plus favorisés n'ont pas les moyens, sans crédit d'impôt, et puisque tout le monde doit faire des efforts, nous dit le gouvernement, de payer leur jardinage, leur ménage, leur sport à domicile, sans en passer par une aide de l'État?
Alors, les métiers du jardinage est un très bon exemple, justement. Enfin, vous avez entièrement raison. Je vous donne juste deux petits chiffres. Il faut savoir que dans les métiers du jardinage, 39% des utilisateurs en service à la personne en jardinage sont non imposables. Et 27% vivent avec moins de 28 000 euros de revenus bruts par an. Vous voyez, on est vraiment extrêmement loin du cliché, donc il y a des revenus aisés qui font appel à des métiers donc du
mais
jardinage.
Mais pour les autres, ceux qui sont imposables... Pour les autres, ceux qui sont imposables, la majorité donc?
Oui, bah, sur ceux qui sont imposables, c'est ce que je vous dis, c'est que la plupart gagnent moins de 28 000 euros de revenus bruts par an. Donc vous voyez, on est vraiment très loin, donc il y a des revenus aisés. Et à l'inverse, il faut savoir que dans ces métiers-là en jardinage, nous avons créé, grâce au service à la personne, donc on voit bien que le premier concurrent, c'est le travail non déclaré, 22 000 créations d'emplois nets, emplois nets sur les deux dernières années. Et là, l'État voudrait donc casser ça, mais ce serait catastrophique.
Les arguments sont donc prêts à destination du gouvernement, on vient de les entendre. Merci Brice Alzon, président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Là, ce sont les chauffeurs de VTC qui se mobilisent aujourd'hui, des chauffeurs qui protestent contre la précarisation de leur métier, la multiplication des fraudes, des opérations escargots un petit peu partout en France, dans le centre-ville de Rennes. Ce matin, sur l'autoroute 1, dans l'agglomération lilloise, il y a 13 km de bouchons. Des actions également à destination, sur l'autoroute, à destination de l'aéroport Marseille-Provence. Et voilà une histoire qui va donner de l'espoir à beaucoup de nos communes. Nous sommes au sud-ouest de Bordeaux, à une vingtaine de kilomètres. La commune de Borèche ne comptait plus aucun commerce depuis 15 ans. Et bien, en quelques semaines, elle vient d'en accueillir 3. C'est la transformation d'un ancien centre technique en locaux commerciaux avec de l'argent des collectivités locales et de l'État qui a tout déclenché. Sur place, Jules Brélaz.
Au début, les habitants de Borèche n'y croyaient presque pas, jusqu'à ce qu'ils voient, comme Isabelle, l'arrivée des trois commerces.
Là, on est ravis. Excellente nouvelle.
Salut.
Elle, c'est une autre Isabelle, la primeur qui tient les belles récoltes.
C'est chouette, parce que moi, quand je suis arrivée sur Borèche à 25 ans, bah, y avait rien. Là, maintenant, vous voulez aller vous faire épiler les patounes ou un petit massage, voilà. C'est l'occasion de venir sur Borèche et acheter des légumes et vous faire faire un massage et manger au resto.
Bienvenue au Valou, le restaurant voisin, au menu accessible, dit Fred, le co-gérant.
On est à 18 euros le midi, entrée, plat, dessert pour du 100% maison. Aussi bien nos voisins, les retraités, les gens du BTP, les commerciaux, que tout le monde puisse venir chez nous. Le gastronomique, vous y allez pour découvrir des saveurs, nous vous venez pour manger.
Ça c'est chouette.
Le bonheur pour les 950 habitants de la commune.
De pouvoir aller à un resto à pied, nous on est super contents.
C'est très bien, ça fait travailler les gens du coin. Et ça fait venir peut-être du monde. Ça bouge, c'est bien.
Une longue renaissance pour le village.
Ça a mis 3 ans.
Pascal Maudet, le maire de la commune.
Alors, il n'y avait pas de commerce depuis 15 ans à Borèche. On en crée 3. Je ne dis pas qu'on va attendre 15 ans de plus, mais pourquoi pas d'autres commerces? Tout est possible.
En attendant l'arrivée de l'esthéticienne et peut-être un jour d'un coiffeur, c'est déjà pour Borèche.
Que du bonheur.
Ici Gironde, avec les Boréchers, c'est ainsi qu'on appelle les habitants de cette commune. Les populations de manchots empereurs en Antarctique diminuent bien plus vite que prévu en raison du réchauffement climatique. Une étude publiée aujourd'hui dans la revue Nature nous l'apprend. Le nombre de manchots empereurs en Antarctique a baissé en moyenne de 22% sur 15 ans dans 16 colonies en raison notamment de la disparition de la banquise. Elle est très engagée pour le bien-être animal et contre le réchauffement climatique. La jeune star américaine Billie Eilish, 23 ans, est en concert ce soir et demain à l'Accor Arena à Paris. C'est sa 3e venue en France et les places se sont arrachées en quelques minutes. Et depuis quelques heures, les fans se pressent pour être ce soir au premier rang. Ils sont plus de 800 à attendre l'ouverture des portes. Bonjour Margot Kefelec.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place, ça ressemble à quoi autour de Bercy? C'est un camping? Il y a des tentes
peu,
en fait,
peu,
c'est ça Margot
un... C'est ça, il y a par exemple Kyrian, 19 ans, qui est arrivé d'Angers il y a déjà 2 jours. Il s'échauffe justement devant sa tente avec une amie.
On est plus que chaud, on est méga prêt, ultra prêt, méga super prêt.
Les fans ont entre 16 et 25 ans, ils viennent de toute la France, ont économisé pour être ici. Ce sont principalement des étudiants qui ont grandi avec Billie Eilish. Comme l'explique Emma, 24 ans.
Enfin, elle a un an de moins que nous et c'est vrai qu'on se reconnaît énormément dans la personne qu'elle est, qui fait part de ses doutes, de son anxiété, de quand ça va pas et ça fait du bien un peu de se sentir compris et de se reconnaître dans des chansons.
Et au-delà de sa personnalité ou de sa musique, ce sont les paroles de Billie qui touchent ses fans. Olivia, 21 ans.
Je me suis tatouée Listen Before I Go, les fans, si vous entendez ça, vous savez très bien de quoi parle la musique.
Adolescente, les chansons de l'artiste l'ont t'aider à batailler contre des idées suicidaires.
Ça m'a dissuadé de faire beaucoup de choses, quoi. Personnellement, ça m'a vraiment aidé une période de ma vie. Les paroles dans ces musiques, en fait, ça mettait vraiment des mots sur ce que je ressentais, alors que je savais même pas que je pouvais poser ces mots-là.
Autre valeur prônée par la chanteuse, selon ses fans, l'écologie, les droits des personnes LGBTQIA+, et la bienveillance. Tous espèrent qu'elle sera de mise ce soir, au moment de passer les barrières.
Merci Margot Kefelec, en direct de Bercy, avec les moyens techniques de Florent Bujon. Billie Eilish que vous écoutez évidemment régulièrement dans la playlist de France Inter. Avant de poursuivre ce 13-14, je vous en rappelle l'information principale. Ce collégien de 14 ans qui est en garde à vue à Nogent, département de Haute-Marne, qui ce matin a agressé l'une de ses surveillantes à coups de couteau. Cette femme de 31 ans est morte. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, est sur place. Elle annonce que les cours sont suspendus dans cet établissement scolaire cet après-midi et demain. Cela s'est produit à l'occasion d'une opération de fouille des sacs des élèves ce matin devant cet établissement de Haute-Marne. Le Premier ministre François Bayrou sera ce soir l'invité du journal de 20h de TF1, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, Denise Loprêtre, la présidente de France Alzheimer 93, et le chanteur Alain Chamfort sont avec nous. Ils viennent nous parler de ces témoignages de personnalités qui prennent la parole pour parler de la maladie d'Alzheimer, ce qu'elle représente pour les malades mais aussi pour les aidants. J'attends vos questions et témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, Aurillac Paris, en avion. C'est l'une des lignes les moins fréquentées de France, mais indispensable, nous disent les collectivités locales qui la financent. C'est notre feuilleton cette semaine. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de Sillé-le-Philippe dans la Sarthe à Blois dans le Loir-et-Cher, en passant par Bervillers dans le Haut-Rhin, on parlera de la journée citoyenne quand les habitants donnent de leur temps pour embellir leur commune.
Excellente idée. Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Christine Murillo, qui au mois d'avril a reçu le Molière du Seul en scène pour son épatant spectacle Pauline et Carton. Et avec elle, c'est le premier tube de Christophe que nous écouterons, Aline, le slow de l'été 1965. C'était donc il y a 60 ans.
Eh oui.
Christine Murillo était adolescente à l'époque et elle a un peu côtoyé Christophe à cette époque-là.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable ? C'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Il est... comment dire...
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
Joe Nesbo, le maître du thriller scandinave, est de retour avec deux polars à couper le souffle. Retrouvez Harry Hall dans Eclipse Total en folio et découvrez les maîtres du domaine en série noire.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps plus chaud et ensoleillé aujourd'hui.
Oui, on a des éclaircies plutôt belles qui se dessinent du nord de la Bretagne jusqu'à la frontière belge. Des nuages tout de même plus compacts sur le Cotentin, sur les Hauts-de-France, avec un vent d'ouest sensible. Le ciel est parfois voilé mais bien lumineux entre la région parisienne et le Grand Est. Et puis plus au sud, c'est du soleil. Peut-être une petite averse sur les Pyrénées. La chaleur s'installe par le sud, alors ça reste plus timide vers la Manche. Uh-huh. Comptez 18 degrés à Amiens cet après-midi, 19 à Cherbourg, mais 25 degrés à Rennes, Paris, Metz, 27 à Strasbourg et à Nice, 30 degrés à Bourges, 31 à Limoges, à Lyon, 33 à Bordeaux, Toulouse et à Nîmes aussi. Demain, la chaleur va s'accentuer encore à l'ouest avec des pointes à 36-37 degrés sur le sud-ouest, 30 degrés aussi attendus à Rennes, 28 à Paris, tout ça sous le soleil. Des brouillards tout de même le matin de la Bretagne au nord de la Seine et des orages parfois marqués du sud-ouest à la Bretagne en soirée.
Et donc encore plus chaud demain. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Alain Chamfort.
Bonjour.
Bonjour Denise Loprêtre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Alain Chamfort, je vous présente tout de même. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais vous êtes là pour partager votre expérience d'aidant aux côtés de votre mère qui a été atteinte il y a quelques années de la maladie d'Alzheimer. Ce qui vous est arrivé également, Denise Loprêtre, pour votre mère. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association France Alzheimer dans le département de Seine-Saint-Denis. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Vous passez aussi par l'application Radio France. Alors Alzheimer, 225 000 nouveaux patients par an dans notre pays, 1 400 000 personnes touchées par cette maladie neurodégénérative, sans oublier des millions d'aidants. Et c'est pour eux notamment que vous avez réalisé ces dernières années, je dis vous à l'association France Alzheimer, ces vidéos baptisées Territoire de l'intime, des malades et des aidants qui témoignent face caméra. Et vous avez demandé pour une nouvelle série de vidéos à des personnalités de le faire. Samy Boisgila, Alain Chamfort qui est avec nous, Thierry Frémont, Joe Star ou encore Loïc Perron. Ces témoignages seront dévoilés ce soir à Paris lors d'une grande soirée et on va en écouter quelques-uns dans les prochaines minutes. Pourquoi cette idée, Denise Loprêtre ?
Déjà, c'est pour faire connaître la maladie et s'adresser aux aidants actuels, parce que vous en avez plein certainement dans vos auditeurs. Et il faut absolument que cette maladie, on en parle, qu'on les désisole et qu'on leur permette par ces témoignages de voir que ça touche tout le monde et qu'on doit demander de l'aide très vite.
Ça touche tout le monde, ça c'est le message principal.
Ça touche tout le monde, c'est le message principal. Ouais.
Pourquoi avoir accepté de témoigner à Alain Chamfort, vous qui dites dans cette vidéo... Au fond, tant qu'on n'y est pas confronté directement, on ne se rend pas compte. Vous faites cet aveu.
Oui, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on repousse parce qu'elle fait peur, parce qu'on a déjà, on vit dans un monde qui nous assaille de terribles nouvelles
à longueur
de journée. Mmh. Donc, quand en plus on pense à une maladie, on essaie de la tenir éloignée de nos préoccupations. Et la seule manière, effectivement, de la vivre, c'est quand ça nous tombe dessus, quoi. Et c'est effectivement ce qui nous est arrivé à ma famille, notamment par rapport à la maladie de ma mère, qui s'est déclenchée, elle avait 75 ans. Et là, tout le monde est dans un désarroi total. Que faire? Comment réagir? Comment se comporter? Comment voilà. Et alors le celui qui était en première ligne, c'est évidemment notre papa qui a laissé sa santé, qui est décédé avant par épuisement.
Mais à force d'aider votre mère?
À force d'essayer, oui, de la ramener à une espèce de réalité qui c'est terrible parce que un couple qui a vécu toute sa vie ensemble ne peuvent pas supporter qu'il y ait un tel changement dans une des deux personnalités, quoi. C'est-à-dire que, comme vous expliquiez tout à l'heure, c'est un ping-pong à longueur de journée et de vie pendant des décennies. Et puis quand d'un seul coup le joueur qui est en face de vous ne fait plus du tout les mêmes réponses, il est perdu, vous savez pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire, vous êtes complètement perdu vous-même. Donc,
vous expliquez que votre mère ne supportait pas que votre père sorte de la pièce, qu'elle ne le voit plus.
Oui, entre autres, il y avait ceci, c'est arrivé à un moment donné. Bon, vous savez, c'est des étapes, hein, voilà, ça procède par étapes. Et ce à quoi on a assisté avec ma sœur, surtout à l'épuisement de mon père, indépendamment de constater que la maladie évoluait chaque jour un peu plus, malheureusement, au niveau de ma mère. Mais mon père était épuisé. Et c'est vrai qu'il a eu la chance, à un moment donné, d'être, je ne sais plus par qui, peut-être par moi d'ailleurs, d'avoir le lien avec France Alzheimer. C'est-à-dire et que ça a changé beaucoup de choses, puisque à ce moment-là, une bénévole est venue l'aider, lui indiquer les gestes à faire, les paroles à pas prononcer, etc. Et il a trouvé un peu d'aide à ce moment-là et de respiration à ce moment-là. Quoi.
Vous témoignez Alain Chamfort. Le comédien Thierry Frémont le fait également et il parle notamment de la découverte de la maladie d'Alzheimer chez son papa.
Il avait toujours le même. En fait, c'est parce que simplement, il lit un livre, une semaine plus tard, il sait plus qu'il l'a lu, quoi, donc il recommence. C'est comme ça, je me suis dit, oh là, c'est quand même bizarre. On a pas reçu un coup sur la tête en disant, oh, il a Alzheimer. Mais il avait toujours le côté, mais peut-être une forme qui serait pas... Bah oui, au début, on veut pas forcément intégrer juste le label, on se dit... C'est un label, mais avec peut-être la parenthèse qui fait que... Et puis après, la parenthèse a disparu, c'est Alzheimer.
On ne veut pas intégrer le label, nous dit Thierry Frémont, Denise Leprêtre, qui voit son père lire toujours le même livre, oui. Mais qui a du mal à l'accepter, au fond.
Oui. C'est ça la difficulté, c'est que ça nous tombe dessus, comme tous les témoignages le disent. La personne, elle est là, elle a le même emballage, si je puis m'exprimer ainsi, mais elle ne réagit plus pareil. On refuse cette idée parce qu'on avait des petits riens avec elle. En fait, des petits bonjours, des comment vont les enfants, les petites choses de la vie, et ça, on les a plus. Et on ne comprend pas pourquoi, puisque la personne, elle a l'air pareil. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est un puzzle dans le cerveau, c'est absolument terrible.
Et puis, on est seul au moment de l'annonce, face à ce diagnostic, vous faites toujours ce constat aujourd'hui encore. On connaît bien cette maladie d'Alzheimer, en tout cas on a l'impression de bien la connaître, on en parle beaucoup, mais vous faites toujours ce constat de famille, de proches qui se retrouvent seuls. Vous vous êtes retrouvés seuls?
On s'est retrouvés seuls et nous on a dit chouette, c'est pas Alzheimer, c'est accord de Lévy, donc là c'était une grave erreur. On se retrouve seuls parce que accord de Lévy, c'est la même chose avec en plus Parkinson, quoi. Et le fait que l'annonce diagnostique, elle n'est pas suivi d'un protocole. En fait, on vous annonce ce diagnostic, et même que vous le compreniez ou pas d'ailleurs, hein, au vu d'un IRM, au vu de... On ne comprend pas toujours. On vous annonce un diagnostic, mais après on vous laisse tomber, hein, il faut le dire comme ça. C'est un peu violent, mais la suite sera un support social, mais pas un support médical. Après le diagnostic, j'espérerais un protocole où on vous guide et où vous avez des espèces de barres pour poser vos mains, mais là, il n'y en a pas.
Le combat, Alain Chamfort, pour vous, ça a été après la disparition de votre père, de trouver un établissement qui puisse accueillir votre mère, qui ne pouvait évidemment pas vivre seule.
Bien sûr. Ben oui, on a bien essayé dans un premier temps de partager son hébergement, aussi bien chez ma sœur que chez moi, mais ça demande une surveillance 24 heures sur 24. Enfin bon, c'était, à un moment donné, ça ne devenait plus possible, indépendamment des fugues qu'elle faisait. Enfin bon, là. Donc il fallait absolument la placer. Et là, commence un autre chemin de croix, hein, parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie de le faire. Il n'y a aucun établissement qui vous donne le sentiment que c'est là où il faut la poser. C'est pas possible, quoi.
Vous avez visité des établissements?
On en a visité plein. C'est pas parce qu'ils sont bien meublés que c'est une signification quelconque, voyez. Et puis, bon, on a réussi finalement à trouver un lieu qui était proche de chez ma sœur, qui lui permettait d'aller rendre visite régulièrement à ma mère. Moi, qui n'étais pas trop loin de Paris, de faire la même chose dès que c'était possible. Et puis, pouvoir surveiller, ma sœur s'était fait engager comme animatrice dans ce lieu, ce qui permettait d'avoir...
Elle s'est fait engager dans le lieu où était votre mère.
Oui, pour pouvoir effectivement être présente et être témoin de ce qui se passait et pouvoir alerter dans les cas... Bon, enfin, malgré tout, c'était toujours très très, très compliqué. Hein.
Sylvie nous appelle du département des Hauts-de-Seine. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous voulez témoigner de ce qui est arrivé à votre mari?
Oui. Il a été atteint de la maladie d'Alzheimer à un âge précoce. Il avait 46 ans. Il a été malade 12 ans avant de décéder. Et chez les malades jeunes, c'est souvent très vite que la maladie progresse. C'est pas qu'un problème de mémoire. C'est un problème de toutes les connexions centrales. Et c'est très compliqué pour les familles parce que vous êtes encore en activité. Vos enfants sont encore jeunes. Et il y a un moment où même si vous essayez de garder la personne avec des auxiliaires de vie, vous avez un problème de manque d'état. Établissement d'accueil parce que vous ne pouvez plus garder le malade qui se sauve, comme l'a dit Alain Chamfort. Voilà, c'est très compliqué. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a quand même 30 000 malades de moins de 60 ans en France et quasiment pas de structure. Il y en a une en Seine-et-Marne, il y en a une à côté de Grenoble. Il y a très 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 peu de choses et apparemment les pouvoirs publics ne créent pas de nouveaux établissements.
Merci Sylvie pour ce témoignage. Denise Loprêtre, est-ce qu'il y a des projets à l'étude? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans cette prise en charge?
Je témoigne comme Sylvie, c'est le pire du pire, c'est les gens de moins de 65 ans. Il y a une barrière qui est à 60 ans, vous devenez une personne âgée, avant 60 vous êtes un handicapé malgré l'âge de la retraite qui est à 64. Je ne comprends pas que ça ne soit pas décalé déjà, mais les gens qui l'ont très jeune, comme le mari de la dame, ils sont encore en activité et personne ne leur tend la main, on n'y arrive pas. Ici, on les faisait accueillir dans des accueils de jour, dans des EHPAD, ils seraient avec leurs grands-parents quand même. Hein. Là, on est dans quelque chose qui est terrible. Et en plus, même, ils perdent leur travail, ils sont licenciés. C'est une situation qui n'est pas du tout meilleure aujourd'hui.
Il y a un malade qui témoigne, je crois que c'est dans les précédentes vidéos de Territoire de l'Intime, plutôt jeune, qui dit « Moi, je parle de ma maladie dans mon village, les gens savent que je suis malade, mais il y a énormément de jeunes, en tout cas quadragénaires ou quinquagénaires, qui ne sortent plus de chez eux. Qui arrête tout en fait.
Alors ils sont malades et c'est assez foudroyant quand même hein, la perte de capacité, mais il n'empêche qu'ils ont une vie, qu'ils continuent à avoir une vie et c'est un des messages du Territoire de l'Intime. Il faut vraiment que toute la population se sente concernée, les accueille, leur permette de continuer leur vie telle qu'elle est avec ses défauts et ses manques, mais c'est vraiment important.
Parmi ces témoignages, justement pour faire changer le regard sur cette maladie, il y a le témoignage du chanteur et acteur aujourd'hui, Joey Starr, qui lui a été confronté à la maladie de sa maman.
C'est dur, quoi, en fait, de se faire cueillir. Tu te rends compte que même quand t'as les moyens, quand je dis les moyens, c'est pouvoir créer une logistique pour pouvoir l'aider à se déplacer, l'assistance, tout ça, tac, tac. Enfin, je me rends compte, moi, mais qu'on a un système qui est pas du tout accompagnant sur ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que tu découvres tout seul. Alors, bien sûr, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un dépliant, un mode d'emploi ou quoi que ce soit. Mais quand même, on te dit juste, faites attention à ça, faites attention à ça, mais on est livré à nous-mêmes. Mais il semblerait que ce soit tabou, quoi. J'apprends qu'il y a autant de monde touché par Alzheimer et si peu de choses pour guider les gens, quoi.
Voilà le témoignage de Joey Starr. Mais à aucun moment on ne renvoie Alain Chamfort, par exemple, vers des associations comme France Alzheimer, qui existent dans le
parcours. C'est pour ça qu'on est là, c'est exactement pour indiquer aux gens qu'il y a au moins cette association qui existe, qui est France Alzheimer, et qui permet d'être conseillé, d'être mis en relation avec des bénévoles si on a besoin. Enfin, je pense que c'est la seule qui permet ça et qui propose ça. Les autres font des aides à la recherche, enfin pourquoi pas, c'est important aussi. Mais c'est la spécificité de France Alzheimer, c'est justement de prendre en compte les aidants. Les gens qui sont à côté des malades et qui sont complètement désemparés.
Fabrice nous appelle de Charente. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission et pour mon appel.
Vous avez fait une formation de co-aidant, c'est ça? De quoi s'agit-il?
Oui. Alors, en fin de compte, j'ai fait une formation d'aidant pour malades Alzheimer. Et puis aussi, en même temps, je suis aidant avec, pour ma mère qui vit la maladie de mon père. C'est mon père qui est malade. En fait. Et donc, j'ai fait cette formation-là. Mais j'ai su assez bizarrement. C'est que j'ai fait une recherche suite à un jour où j'étais pas bien et que j'avais besoin d'aide. Je regardais sur Internet et je suis tombé sur la permanence de France Alzheimer aux Charentes. Et donc, j'étais guidé après pour aller sur des groupes de parole. Et au groupe de parole, ils m'ont proposé de faire cette formation d'aidant. Quoi.
Elle vous aide, elle vous apporte ?
Oui, parce que dans ma démarche, déjà, dans l'approche que j'avais, ça m'a permis de conforter ma manière de réagir par rapport au comportement de mon père. Et en même temps, ça m'a permis de mieux accepter le fait que l'inversion des rôles. Parce que là, automatiquement, c'est les rôles qui sont inversés maintenant.
C'est-à-dire l'inversion des rôles ?
Ben, c'est que c'est plus mon père qui est mon père, en fin de compte, c'est moi qui suis plus son père indirectement. Quoi.
Et ça doit être dur à accepter, ça doit être dur à vivre.
Ah oui, exactement. C'est clair que c'est pas facile tous les jours quoi, de se rendre compte. Bon, après, on prend du recul et tout, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a des choses que ça s'arrange pas. De toute façon, c'est une maladie qui s'arrangera jamais. Donc, on ne peut qu'à voir et subir la dégénérescence de la personne qu'on aime. Quoi.
Merci de nous avoir rappelé l'existence de ces formations, Fabrice. Merci pour votre appel. Merci Denise Leprêtre, France Alzheimer 93. Il y en a dans tous les départements.
Tous les départements sont
de France. Donc, si vous êtes concerné, vous vous rapprochez notamment de ces associations. Merci Alain Chamfort d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Les vidéos se nomment Territoire de l'intime. Elles sont dévoilées ce soir dans cette grande soirée à Paris, mais vous les retrouvez évidemment sur le site de France Alzheimer, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton. Nous sommes cette semaine sur la ligne aérienne entre Paris-Orly et Aurillac. La ligne est déficitaire, mais elle est jugée indispensable pour le territoire. Et le déficit, 25 millions d'euros sur 5 ans, est pris en charge par l'argent public, 55% par l'État, 45% par les collectivités locales. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur l'une des particularités de ce vol entre Cantal et région parisienne, les turbulences dans une région de montagne, d'autant que l'appareil à hélice ne fait que 48 places.
L'aéroport d'Aurillac est célèbre pour l'accident qu'il avait pu avoir effectivement en 92 où l'avion de ligne, avec beaucoup de personnes connues, notamment le sénateur, le préfet, a percuté des vaches au décollage. Un temps avec du brouillard et les vaches se sont allongées sur la piste et l'avion les a percutées au moment où il décollait. Ils ont cassé un train, un moteur, ils sont allés se poser à Istres à l'époque sur de la neige carbonique sur un terrain militaire. Je suis Frédéric Marchal, responsable d'exploitation de l'aéroport d'Aurillac. Ici, on a une particularité, on est haut, on peut avoir de la neige, on peut avoir du vent et on peut avoir du brouillard. Il est arrivé que l'avion déroute son chemin pour des raisons de sécurité, parce qu'il y avait trop de vent, et que dans ce cas-là, on ne prend pas le risque de faire atterrir les passagers à Aurillac. Malheureusement, ils sont acheminés vers Toulouse et ça fait un peu grincer des dents. Mais je répète, ça reste très rare.
Ouais, c'est en train de se bâcher.
Il faut 550 mètres de visibilité horizontale pour pouvoir faire un décollage en sécurité. Là, on ne les a pas. Pour l'instant, réglementairement, il ne peut pas décoller.
La dernière visite, 350 mètres, RVR, 450 mètres.
Moi, je suis Thierry-Louis Abraham, je suis agent d'information de vol. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit les paramètres de vol aux équipages pour l'atterrissage et le décollage des avions.
C'est sécurisé du Chaleur 451, tu penses que tu pourrais regarder dans ce balise que tu vois de la 15, s'il te plaît ?
Là, vous communiquez, c'est plutôt avec les pompiers, c'est ça aussi ?
Voilà, il va compter les balises pour avoir une estimée de la visibilité. Et on saura s'il peut décoller ou pas, en fonction de la visie.
On est à 5 balises. Et on procède du côté 33.
Eh bien, allez-y, piste 15, on est prêt au départ et on va décoller avec 550 mètres de RVR. Du coup, on est preneur de la 40, s'il te plaît.
Commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à bord de cette ATR-42 de Chaleur Aviation. Au nom de Chaleur Aviation, nous vous souhaitons un excellent vol.
Donc moi, je suis Lydie, j'ai 21 ans et je suis chez Chaleur depuis un an et demi maintenant. Nous, on est un peu habitués, donc on fait pas trop attention. Mais des fois, il y a des passagers en sortant qui nous disent « Ah bah, ça a beaucoup bougé » ou « Ah bah, on l'a senti l'atterrissage » ou des choses comme ça. Nous, on remarque plus trop, mais c'est vrai que des fois, c'est pas très agréable derrière. On est un peu aussi bousculés, ouais.
Et vous alors ?
Jean-François, commandant de bord.
Moi, c'est la première fois que je suis dans un cockpit d'avion. On a l'impression que tout roule là.
Oui, parce que tout roule, il n'y a rien à faire en fait. Il fait tout bien mieux que nous. En fait, il y a ce petit monsieur qui travaille.
C'est pas le petit monsieur ?
Le GNSS. Ouais.
Le GNSS et le GPS, et en fonction de ce que ça nous dit, on rentre tout ça dans l'autopilote en fait. Et après, on surveille, on vérifie que tout se passe bien, et on est là en cas de soucis, quoi. Maintenant, on est au-dessus des nuages aujourd'hui, donc ça va. En général, ce type d'avion, des fois, on vole pas assez haut pour passer au-dessus. Donc d'où les turbulences qu'on peut avoir. Mais après, on a aussi l'habitude et ça fait partie du boulot, quoi. Donc, on est censé rester calme et concentré, quoi.
Adrien Serrière pour ce feuilleton. Réalisation Stéphane Ronxin. Troisième épisode demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h50. Cyril Petit nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, petites histoires de citoyens qui œuvrent, Cyril, pour leur commune.
Et je vous emmène, Jérôme, à Sillé-le-Philippe, petite commune de 1000 âmes. Dans la Sarthe, fin mai, une quarantaine d'habitants se sont mobilisés pendant une journée pour, pêle-mêle, entretenir les chemins de randonnée, nettoyer les abris de bus, fleurir le village, repeindre les tracés de jeux dans la cour d'école, débroussailler le bois local. Autre mission, lit-on dans le Maine Libre, enlever morceaux de rubans adhésifs et autres chewing-gums collés sous les 332 chaises de la salle polyvalente. Alors, toutes ces tâches, Jérôme, ont été effectuées bénévolement par les habitants dans le cadre de la journée citoyenne, c'est la 8e à Sillé-le-Philippe. Cette journée est pour et avec les habitants, commente la maire. Le but est de les mobiliser pour réaliser ensemble des travaux d'embellissement ou d'aménagement du cadre de vie. C'est aussi l'occasion de favoriser le partage de compétences, la rencontre entre générations, de tisser des liens. Alors, le slogan de cette journée nationale, notamment soutenue par l'Association des maires de France, résume l'esprit: faire ensemble pour mieux avancer ensemble.
Et cette journée citoyenne, Cyril, a lieu dans de très nombreuses communes.
Oui, en 2024, 4000 communes en ont organisé une, touchant un demi-million d'habitants. Alors, si elle peut être organisée toute l'année, elle a une date officielle. Pour 2025, c'était le 24 mai. Et quand on regarde la carte sur le site journeecitoyenne.fr, quelques zones sont plus actives. La Bretagne, les Pays de la Loire, les départements des Pyrénées, mais surtout l'Alsace. Car c'est à Bervillers, dans le Haut-Rhin, que la journée citoyenne est née en 2008. Mmh. Le maire à l'origine, Fabien Jordan, a expliqué sa démarche. D'habitude, ce sont les élus qui proposent et agissent, et les citoyens, on ne leur demande que de payer des impôts. Je me suis dit, on va faire l'inverse. Ce sont les citoyens qui vont proposer. Je voulais qu'ils soient acteurs, que les gens se reparlent, travaillent ensemble, se comprennent.
Alors, les maires et les élus ont un rôle important dans cette journée, mais souvent, ce sont les habitants qui proposent eux-mêmes les chantiers à mener.
Oui, à Blois, dans le Loir-et-Cher, par exemple, 5 journées citoyennes, une par quartier, sont organisées en 2025, dont la prochaine le 28 juin. Tous les habitants peuvent faire des propositions sur le site web de la mairie. Parmi les critères, le projet doit répondre à une exigence de bien commun, être réalisable en l'espace d'une journée et être techniquement abordable pour les habitantes et les habitants.
Est-ce que vous avez, Cyril, quelques exemples de travaux menés cette année ?
À Blois, donc, on a créé une boîte à livres et embelli le muret du carré militaire du cimetière. À Volgelsheim, dans le Haut-Rhin, quelques-uns des 105 bénévoles de 2025 ont repeint l'ancienne locomotive de halage de péniche le long du canal Rhin-Rhône, lit-on dans les DNA. À la Garnache, en Vendée, pour ne pas perdre de temps, certains sont même allés dès 8h directement sur les lieux de travail, sans passer par la mairie. C'est le cas pour l'équipe en charge des travaux dans la sacristie, nous raconte Ouest France.
Et qui dit journée citoyenne, dit aussi, Cyril, citoyenne.
Évidemment, on embellit, on s'amuse, mais on s'engage aussi à Cerisy-la-Forêt, lit-on dans la Manche Libre. Les bénévoles de la journée citoyenne, eux, ont d'ailleurs été récompensés le 28 mai par une visite à l'Assemblée nationale à Paris. Et à Mamers, dans la Sarthe, 2 fresques collectives ont été peintes sur le thème de la paix. Parce que, justifie la maire, être citoyen, ce n'est pas seulement nettoyer sa ville, c'est aussi apprendre à regarder les autres, à mieux comprendre ce qu'ils vivent.
Merci Cyril Petit du journal Ouest France. Je rappelle le site internet journeecitoyenne.fr. De C'est la France, ah, c'est une chanson, c'est la comédienne Christine Murillo que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Christine Murillo qui, lors de la dernière cérémonie des Molières, a reçu son 5e Molière, celui du seul en scène pour Pauline et Carton. Un formidable spectacle qu'elle rejouera la semaine prochaine à Aix-en-Provence dans le cadre des flâneries d'art contemporain. Et avec elle, nous avons parlé d'une chanson qu'elle mentionne d'ailleurs sans son seul en scène, Aline de Christophe, pour elle, un joyeux souvenir d'adolescence.
Je passais des vacances avec une amie la plupart du temps, tous les ans, au mois de juillet. Son père était éditeur de musique, Francis, car il s'appelait Francis, et avec Christophe qui venait de faire un malheur avec Aline. Et tout d'un coup, mois de juillet, au Cap d'Antibes, entre deux maisons de milliardaires, il y avait la petite maison du port de l'Olivette, il y avait le bateau de Francis et il emmenait faire du ski nautique Christophe. Et donc, nous, on était comme deux dindes à regarder une vedette, quoi. C'est aussi bête que ça.
Votre amie, elle s'appelait comment ?
Suzette ! Si elle m'entend, bonjour Suzette. On se voit moins, mais c'est vraiment ma plus grande amie. On s'est connus à l'âge de 3 ans, vous imaginez. Et donc, les vacances du mois de juillet au Cap d'Antibes, c'est inoubliable, quoi.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je me suis assis.
C'est en 1965 qu'est sortie cette chanson de Christophe, Frédéric.
Chanson qui fut le tube de l'été cette année-là et que Christine Murillo chantait donc avec son amie Suzette tout en regardant Christophe faire du ski nautique.
Nous, on savait quel était son vrai nom. On avait l'impression d'être vraiment dans les coulisses de l'exploit. On connaissait la vedette par un autre biais. C'était ça, notre joie et notre particularité. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Quant à la chanson elle-même, ben, on l'a chantée et rechantée. On a crié. Mais le truc qui m'est resté le plus, c'est que Christophe, il faisait du ski nautique tout habillé, avec son jean, parce que dans les années 60, les jeans ne se vendaient pas délavés, mais il fallait le délaver soi-même. Et lui, il avait trouvé le truc de faire du ski nautique en jean. Alors là, ça, c'était le pompon de l'anecdote qui nous plaisait.
Il faisait du ski nautique précisément pour délaver son jean ?
Mais oui, et c'est certain que ça délavait son jean plus vite que s'il l'avait mis en machine à laver.
Vous n'avez jamais fait de ski nautique ?
Si, j'étais nulle, mais j'ai sans doute mis les mêmes skis que Christophe. Ça, c'est pas rien.
Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
Des chagrins d'amour comme celui-ci, à oui. pleurer autant, est-ce que vous en avez connu ?
Ma vie n'est faite que de ça. Mais la vie de beaucoup de gens, je suppose. Oui, mais cette chanson ne m'y fait absolument pas penser. Puis ça n'a aucun intérêt, ma vie, mon œuvre, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ouais, je ne vais pas m'étaler sur les pauvres peines de cœur qui n'ont vraiment, mais ça ne ferait pas un livre. Hein.
Il y en a qui en ont plus que d'autres.
Oui, ben, je dois être dans la moyenne, je ne sais pas.
Vous diriez que c'est une belle chanson ?
Elle marque les esprits, c'est très simplissime, et c'est peut-être ça qui parle aux gens, mais c'est pas la chanson que je préfère au Pardon Christophe, parce qu'on l'aime pour beaucoup d'autres chansons. Celle-là, c'est juste qu'elle a coïncidé avec une bêtise d'adolescente, et ça me fait plaisir d'en parler, et de parler de lui d'ailleurs.
Elle a coïncidé avec un vrai souvenir de vacances.
Absolument, et même a perduré dans le plaisir de s'en souvenir.
Et j'ai pleuré, pleuré, où j'avais trop de peine, et j'ai crié.
Aline, Christophe. C'était donc, Frédéric, le choix de la comédienne Christine Murillo.
Formidable Christine Murillo qui rejouera son réjouissant seul en scène Pauline et Carton le 20 juin à Aix-en-Provence avant de le reprendre au Théâtre de la Pépinière à Paris à partir du 30 août.
Et après, comment délaver un jean, un nouveau conseil vestimentaire demain
le ski nautique.
Par Frédéric Pommier. On peut faire une nouvelle série avec vous, cher Frédéric. Et en chanson, je vous dis à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Nous parlons de la forêt.
La forêt française, oui, à l'heure du changement climatique.
À tout de suite.